Donc d'abord, bah merci beaucoup d'avoir retenu cette présentation pour cette session thématique de Scolac. Donc je vais vous présenter le travail qui a été effectué dans le cadre d'une collaboration entre trois doctorants du projet donc Trajectories de Grenoble. Donc Claire Blanchet qui travaille à Edithem, qui fait de la palynologie, Raphaël Lacello qui travaille en histoire de l'environnement sur la vallée de la Maurienne, et enfin moi-même donc, qui travaille au LECA de Grenoble sur des modélisations de services écosystémiques sur la vallée de la Maurienne. Et donc en fait, dans le cadre de cette collaboration, on a essayé ensemble de se poser la question de comment reconstituer et de restituer concrètement une trajectoire d'un socio-écosystème, et ça sur un temps un peu long. Donc on a travaillé sur une période qui court donc, de 1620 à aujourd'hui, et où on a essayé de caractériser différentes variables du socio-écosystème sur cette période pour essayer de mieux comprendre et reconstituer sa trajectoire passée. Et donc, cette collaboration est aussi née du fait qu'on pourrait peut-être arriver à mieux caractériser les changements et les adaptations passées à travers la mise en place d'une démarche interdisciplinaire qui va réunir donc, les trois disciplines que j'ai mentionnées juste avant, donc l'histoire, la palynologie et puis l'écologie. Et donc, pour ça, en fait, on a mis à contribution trois archives, trois sources de données, une archive environnementale avec l'analyse des sédiments qui sont contenus dans un lac, une archive historique, des archives historiques qui sont produites par la communauté humaine qui a habité la commune qu'on a étudiée, et enfin, des données spatiales, donc en utilisant la première campagne de données d'orthophoto de l'IGN. Et donc, nos objectifs, avec la mise en relation de ces trois sources de données, c'est d'essayer de démontrer ou de tester si une approche interdisciplinaire pourra permettre de restituer une trajectoire plus complète, de proposer aussi des jeux de variables qui sont intéressantes à caractériser pour comprendre les adaptations passées, et enfin de voir comment nos méthodes se complètent et réduisent les biais des autres. Donc, pour notre site d'étude, on a travaillé sur la commune de Montémont, qui est aujourd'hui rattachée à Saint-François-Longchamp, qui est située juste au nord de la commune. C'est une commune de moyenne montagne qui est située dans la partie basse de la vallée de la Maurienne. Et donc, elle a la spécificité d'avoir un petit lac de montagne qui est situé à 1500 mètres d'altitude et où donc ont été effectuées les analyses de pollen. Donc, ici, je présente toutes les variables qu'on a essayé de caractériser dans le temps avec nos différentes méthodes et nos différentes disciplines. Et on a essayé de replacer ces variables dans voilà, un schéma extrêmement simplifié d'un socio-écosystème où on aurait juste la boucle centrale de rétroaction. Et donc, l'analyse palynologique va nous permettre d'accéder à une reconstitution de la végétation sur les quatre derniers siècles, celle de la sédimentologie, les événements d'érosion locaux qui ont pu avoir lieu dans le petit bassin versant du lac. Les archives historiques, elles nous informent sur les changements qu'il y a pu avoir dans la gestion et les pratiques sylvicoles. Ce que c'est que j'ai oublié de préciser que Raphaël Lacello travaille spécifiquement sur l'histoire des forêts en Maurienne. Et puis donc enfin, une analyse cartographique des transitions d'occupation des sols et de leur couverture qui nous informe sur les changements et les transformations qu'ont subi le paysage. Et on a terminé donc avec une modélisation assez basique d'un service de régulation qui est la protection des sols contre l'érosion, pour voir aussi comment un service écosystémique ou une NCP a pu changer les dernières années. Donc ici, je présente, voilà, comme on a des méthodes d'analyse différentes, nos données ne sont pas forcément continues ou situées sur les mêmes périodes, il y a certaines disparités. Et donc, on voit que la série de données sur le pollen, c'est celle qui est la plus longue et qui remonte le plus loin. On a ensuite en rouge donc, les données historiques qui sont constituées de deux jeux de données, des analyses des plans de gestion forestiers, et les analyses des rapports du conseil municipal. Et donc enfin, on a les analyses cartographiques à droite, avec un premier jeu de données dans les années 50 et le deuxième aujourd'hui. Donc, je vais passer assez rapidement sur les méthodes, mais donc l'analyse de pollen consiste à prélever des carottes de sédiments pour ensuite effectuer des comptages sur les différentes strates de cette carotte et ensuite identifier les différents pollens qu'on aura comptés pour remonter jusqu'aux espèces qui les ont émises. Ça nous permet comme ça d'accéder à une représentation qui va être non spatialisée des compositions en espèces du paysage qui entourait le lac les siècles précédents. pour l'analyse historique, donc on analyse, comme je l'ai dit avant, les rapports forestiers qui étaient produits à l'époque, les affaires communales et les rapports du conseil municipal. Et donc ces analyses-là nous permettent d'accéder à des données qui vont être quantitatives sur la composition des forêts, sur leur gestion, et puis des données plus qualitatives sur des événements politiques ou d'autres pratiques sylvicoles. Et donc enfin, pour ce qui est de l'analyse paysagère, ici on a utilisé la première campagne d'orthophoto des années 50 de l'IGN, qu'on a comparée avec une donnée d'occupation des sols actuelle pour essayer de voir donc comment a pu évoluer et changer le paysage. Et enfin, pour la modélisation des pertes de sol, on a utilisé l'équation Russell, qui permet d'estimer par pixel la perte de sol probable. Et donc, avec la visée finale, d'essayer de comprendre si voilà, cet NCP avait bougé dans les dernières années. Donc, maintenant, je vais vous présenter un peu nos résultats principaux. On a structuré notre analyse en trois périodes distinctes du sous-écosystème. Ces trois périodes sont séparées par deux événements. Voilà, donc le premier événement en 1860, c'est l'annexion de la Savoie par la France, qui sépare notre première période de la seconde. Et puis ensuite, à partir des années 50, donc la modernisation agricole, qui va avoir des conséquences fortes sur notre sous-écosystème et qui donc sépare la deuxième et la troisième période. Donc sur la première période, les principaux résultats qu'on a observés sont ici. Donc vous avez en haut à gauche le diagramme pollinique qui présente les rapports pardon, donc des différentes espèces en présence à l'époque. Et puis à droite, donc la courbe de population sur la commune à l'époque. Et donc, ce qu'on observe principalement, c'est qu'on a des arbres qui vont être sur toute la période un taux relativement constant, même si on a une révolution d'échantillonnage qui est assez faible. On a une présence très forte des espèces cultivées, céréales, chanvre, etc. Et puis aussi une présence forte d'espèces ruderales, donc qui sont associées à l'exploitation pastorale du site. Pour ce qui est de la population, on est dans une phase de croissance, ou au moins de croissance sur la commune. Donc, on a au début à peu près 900 habitants, puis on monte jusqu'à 1200 au pic à la fin de la période. Et pour ce qui est des données historiques, donc les archives communales sur la période sarde, on retrouve déjà des règlements sur les activités pastorales, ce qui nous indique aussi que ce système était certainement extrêmement important pour le socio-écosystème à l'époque. La gestion forestière, quant à elle, a été exclusivement locale et la production de bois a été destinée à la consommation locale aussi. Ça, c'est une spécificité aussi de la commune de Montémont par rapport à d'autres communes de la vallée de la Maurienne où très souvent l'exploitation du bois est en relation avec l'industrie sidérurgique de fond de vallée. Et donc, pour voilà, caractériser un peu cette première période globalement, il semble qu'on ait donc des sous-systèmes productifs agricoles, forestiers et pastoraux qui sont tous imbriqués. On imagine qu'il y avait une intensité d'utilisation du paysage qui était forte et une dépendance forte aussi au NCP d'approvisionnement. La gouvernance était encore locale et la production sylvicole et aussi certainement la production céréalière était destinée à l'autoconsommation. Ensuite, pour la seconde période, donc, qui est marquée par le rattachement de la France à la Savoie, on observe assez peu de changements sur le diagramme pollinique du point de vue des peuplements arborés. Par contre, on commence à voir l'amorce d'une diminution de la culture de céréales sur le site. Et enfin, on a une légère augmentation des taxons ruderaux. Pour ce qui est de la population, on était au pic au début de la période et là, on commence à décroître avec l'exode rural qui commence au début du XXe siècle et on perd jusqu'aux années 50 par rapport au début de la période 50% de la population totale du socio-écosystème. Et donc, ce rattachement de la Savoie à la France, ça va aussi marquer un profond changement dans la gouvernance forestière, où donc on va avoir les eaux et forêts, l'ancêtre de l'ONF, qui va commencer à gérer les forêts. Et donc, la gouvernance va passer à l'échelon national. Et donc, on va avoir des rotations plus longues, des coupes sur des diamètres plus grands. Et tout ça va entraîner donc un vieillissement, une densification des peuplements forestiers. On atteint un pic de l'exploitation au début du XXe siècle. On retrouve aussi des traces donc d'une diaspora très forte sur cette période d'habitants de Montémont à Paris, ce qui indique aussi qu'on a certainement une connexion avec les systèmes externes et les échelles supérieures qui devaient exister en tout cas. Et puis, donc, la création de structures mutualistes pour le pastoralisme et l'arrivée de transhumants à partir de 1900, ce qui témoigne aussi donc, encore de l'importance du système pastoral à cette époque. Et donc, globalement, sur cette période, on a atteint donc, le pic de l'exploitation forestière. On a l'amorce d'une diminution des surfaces en culture. On imagine que ça a conduit à un premier renforcement du système pastoral au détriment du système agraire. Et donc, une bascule dans la gouvernance de la gestion forestière. Donc ensuite, on arrive à la dernière période qui, ici, constitue les changements les plus importants qu'on a pu observer sur notre commune. Avec donc, sur le diagramme politique, on le voit très bien, une augmentation extrêmement forte des peuplements arborés, une disparition presque totale des espèces cultivées de type céréales, sécales, chanvre, etc. Et une augmentation forte des taxons ruderaux, encore une fois. Pour ce qui est de la population, on a une réduction de 75% de la population sur la période, ce qui est extrêmement drastique. Et donc, on suppose que ces effets sur les paysages et la population sont dus d'une part, voilà, à la modernisation agricole qui a pu commencer dans les années 50 en France et à l'exode rural pendant toute la moitié du XXe siècle qui a fortement diminué la main-d'œuvre sur le site. On retrouve en fait avec les données cartographiques les mêmes informations ici. Donc vous avez en haut à gauche la carte des années 50 du paysage, au milieu à droite la carte aujourd'hui, et puis en dessous un diagramme de Sankey qui présente les transitions principales. Et donc on retrouve le même signal avec la disparition complète des surfaces cultivées autour du village, un doublement des espaces forestiers sur le site, et enfin donc le maintien en prairie d'environ 40% du site, ce qui nous indiquerait aussi que voilà, le système pastoral a été conservé contrairement aux autres. Pour l'évolution de l'érosion sur le site, vous avez ici donc une carte qui présente la différence entre aujourd'hui et les années 50. Et donc, ce qu'on observe globalement pour ce service, c'est qu'on a une réduction de 45% entre les deux dates des pertes de sol, du fait entre autres de nombreuses transitions d'occupation des sols, avec donc la végétalisation des sols nus qui va contribuer à 50% à cette baisse, et la progression végétale naturelle, donc ici la fermeture et la densification des peuplements ligneux, et enfin donc la disparition des cultures qui contribuent tous les deux à 20% de cette réduction globale. Donc finalement, c'est sur cette période qu'on observe le plus de changements au niveau paysager. C'est aussi là où la réduction de la population est la plus forte. On a une complète disparition de l'agro-système qui produisait les céréales à l'époque pour le SES. L'exploitation forestière est en déclin total, voire presque on soupçonne qu'il y aura peut-être un abandon dans les années qui viennent. Et puis voilà, la connexion aux systèmes externes et aux échelles supérieures a été sûrement renforcée sur cette période. Et tout ça a pu conduire à la disparition, par exemple, donc des surfaces cultivées qui produisaient avant localement les ressources du site. Et donc finalement, notre écosystème a abandonné, ou en tout cas a délaissé les deux systèmes de production, sylvicole et agraire, sur lesquels il reposait avant, pour se spécialiser vers le système pastoral qui est encore maintenu aujourd'hui. Et on suppose donc que ces transformations ont conduit à une dépendance moindre des NCP d'approvisionnement, et ce qui a en même temps pu conduire à une diminution de l'intensité d'exploitation du paysage, qui a pu renforcer de l'autre côté certaines NCP de régulation.
Tu
Je sais
conclus
pas
ou
si pas.
quoi?
Ouais, je vais conclure rapidement. Donc très rapidement sur la démarche interdisciplinaire. Donc ça a un coût de mise en place qui est non négligeable. Et la mise en relation des données n'est pas forcément facile. Elles vont avoir des natures différentes, des étendues qui ne vont pas forcément correspondre, mais on a quand même finalement des bénéfices multiples avec une information qui est bien plus complète sur la trajectoire des sous-écosystèmes et puis des biais de certaines méthodologies qui vont être complétées par l'apport de données qui viennent d'autres. Et voilà, donc finalement, avec une évaluation interdisciplinaire des trajectoires des sous-écosystèmes, on arrive à mieux comprendre les adaptations et les transformations passées comme étant conçues comme des modifications des relations et des interactions entre les différents compartiments des sous-écosystèmes. Et je vous remercie pour votre attention.